Okapi, service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de rester fidèles à ce programme. Nous allons parler à présent des préalables à réunir pour atteindre le développement durable en RDC d'ici 2030, à l'horizon 2030. Pour en parler aujourd'hui, pour en savoir plus, nous recevrons le professeur Daniel Moulenda. Il est docteur en sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa et président exécutif du CIRAD, ASBEL. Professeur Daniel Moulenda, bonjour.
Bonjour mon frère.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci.
Bien, des questions et préoccupations par rapport au développement durable, composez déjà le 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiokapi.net. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Polydor Basunga sur la mise en onde. Tati Mapuku réalise cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Au Capi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Bien, merci à Glody Toutona qui assure la diffusion live de cette émission sur les différentes plateformes digitales de Radio Capi. Bien, nous parlons du développement durable. On dit que la RDC est un pays qui est riche. Nous avons beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses au niveau des richesses minières, etc. Alors, mais le développement, c'est, on dit que c'est un pays en voie de développement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour atteindre les développements durables d'ici à l'horizon 2030? C'est quoi les développements durables? Eh bien, on aura des réponses à toutes ces questions avec notre invité, le professeur Daniel Moulenda, docteur en sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa et président exécutif du CIRAD. Les CIRAD, professeur, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est le centre de recherche en développement durable.
Oui, tout à fait. Nous sommes un centre interdisciplinaire parce qu'en fait, comme vous savez, le développement durable, c'est une approche transversale. Il faut que les chercheurs de plusieurs disciplines se mettent ensemble pour frayer un chemin qui nous conduit vers le développement durable. Ça, c'est l'interdisciplinarité de notre centre.
D'accord.
Voilà.
Alors, c'est quoi le développement durable, professeur?
Merci pour la question parce qu'en fait, ça égare beaucoup déjà la définition du développement durable.
Oui, on entend tout le temps parler.
Oui, il y a une définition principale qui est diffusée par les services techniques des Nations Unies, qui se limite à dire que c'est un mode de développement qui permet aux générations actuelles de consommer les ressources sans toutefois compromettre la chance des générations futures de trouver aussi les ressources pour satisfaire leurs besoins. Moi, en tant que chercheur au niveau quand même de la doctrine, j'estime que quand on se limite à ça, on a du mal à implémenter un développement durable dans un pays. C'est pourquoi j'ai défini le développement durable.
Et certains disent que ça touche l'économie, ça touche
l'environnement.
Tout à fait, tout à fait.
Vous allez le sentir.
Oui.
Le développement durable, selon moi, c'est un développement équitable. Alors, équitable dans ses trois dimensions. C'est-à-dire l'équité spatiale. Ça veut dire que c'est un développement qui touche toutes les contrées dans une nation. Vous quittez Kinshasa, vous allez à Mwanda, vous trouvez la même ambiance. Vous êtes chez vous. Vous dormez bien, vous vous réveillez bien.
Oui.
Vous allez à Kabea Kamwanga, c'est la même chose. Vous allez à Lodja, c'est la même chose.
C'est la même chose.
Vous allez n'importe où.
À Sakaji, à Sando, à Dilolo.
Vous allez à Kikwit, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez accès aux services de base sur toute l'étendue de la République. On dit que là, on a respecté l'équité spatiale.
Or, c'est ce qui n'est pas le cas.
On va y arriver.
D'accord.
Et puis, la deuxième caractéristique de cette équité, c'est-à-dire, elle est intragénérationnelle. Avant de parler des générations à venir, il faut se poser la question si la répartition des ressources s'est faite de façon équitable au niveau de toutes les couches qui constituent la génération présente.
Parce qu'on peut pas directement parler de génération future sans satisfaire les...
Si la répartition n'est pas équitable dans la génération présente.
Actuelle, oui.
Comment vous allez provisionner pour les générations futures? Ça devient très difficile.
Oui.
Il faut que l'équité là soit d'abord intragénérationnelle. Moi, je suis professeur d'université. J'ai des besoins selon la théorie de Maslow. L'enseignant a les mêmes besoins à l'école primaire. L'infirmier a les mêmes besoins. Le cantonnier a les mêmes besoins. Donc, il faut que les développements que nous implémentons permettent à toutes ces couches de la société de dire que je suis Congolais, je dors, je mange au Congo, j'ai la joie de rester au Congo. Sinon alors, c'est l'immigration. Nous allons y arriver.
Bien.
Troisième dimension, c'est là où ça devient intergénérationnel. C'est là où je rejoins le point de vue des Nations Unies, avec ses services techniques. Quand nous nous consommons, je suis économiste, mais nous devons savoir que les ressources naturelles ne sont pas interchangeables avec quelques formes autres de capital. Si tu as beaucoup de véhicules, ça ne va pas te produire de l'air, de l'oxygène, comment dirais-je, sain. Si tu habites une maison en étage, ça ne te donne pas la sécurité que l'eau que tu vas boire là-bas sera une eau potable. Donc, il faut que nous puissions laisser les ressources dans un état où les générations qui viendront après nous puissent les utiliser. Je m'empresse pour vous donner un exemple. À Kinshasa, par exemple, nous avons les histoires des anciens. Ils nous disent, par exemple, à côté de Bondeko, la petite rivière qui coule maintenant comme, je ne sais pas, comme... comme
à côté de l'hôpital Bondeko.
Oui, tout à fait, à l'IMT.
Ça s'appelle comment, c'est quelle rivière?
Je ne connais pas les noms. Il y a une rivière qui coule par là. Mais on nous dit que dans le passé, les gens allaient se baigner là-bas.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Les gens allaient puiser de l'eau là-bas pour faire les cuisines, dans les temps avant l'indépendance. Mais aujourd'hui, notre mode de vie est en train d'assécher les rivières. Et les gens ne se rendent pas compte que nous sommes en train de gréver sur le potentiel des générations futures. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on arrête cette façon de consommer. Voilà un peu la quintessence que je donne à ces mots développement durable.
Développement durable. C'est un développement équitable.
Équitable sur les trois dimensions.
La dimension spatiale.
Spatiale, intragénérationnelle et intergénérationnelle. Enfin.
D'accord. Alors, professeur, quel état des lieux vous faites du développement durable dans notre pays?
Ok. Vous voyez que ça devient très simple. Lorsque nous vérifions l'état de ces trois dimensions au Congo,
oui.
Eh ben, nous pouvons dire que la dimension spatiale, c'est zéro. C'est pourquoi Kinshasa est rempli des gens,
l'exode rural, les gens qui quittent
leur terroir,
qui viennent
où il y a tout d'ailleurs, hein? Parce que quand ils arrivent ici, ils sont complètement désillusionnés.
Ah oui,
n'est-ce pas? Mais quand je parle avec mon frère là, ils suivent au fond, ils nourrissent l'ambition de venir à Kinshasa.
Kin Labelle, Kin Malebo,
qui est devenu aujourd'hui Kin la poubelle. Vous voyez? Donc, vous voyez que sur le plan spatial, on peut dire qu'il n'y a rien. Sur le plan intra
Générationnel.
Donc, là, je dirais aussi qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce que il y a des politiques qui ne sont pas développées dans notre pays correctement. D'abord, il y a la politique salariale. Il y a de tels écarts de salaire dans ce pays. Moi, je ne vais pas m'attaquer seulement aux politiciens, non. Même en dehors de la sphère politique.
Politique, il y a toujours des écarts de salaire.
Il y a des écarts
incroyables.
Incroyables. C'est-à-dire qu'il y a certains compatriotes, quand ils travaillent, ils sont dans des approches, ils sont victimes des approches esclavagistes. C'est-à-dire, quand on lui paye son salaire, franchement, c'est le cauchemar.
Il peut rien faire avec.
Non, c'est les jours les plus mauvais du mois. Mm. Les jours où on touche les salaires. Parce qu'on se rend compte de son incapacité à faire face à ses obligations obligatoires. Je me répète, hein.
Oui.
Des choses qui doivent nécessairement être faites par un père d'une famille. Il a sa bourse entre les mains, mais il sent qu'il ne peut pas payer les minéraux de ses enfants. Il ne peut pas payer une nourriture décente.
Il ne peut pas nouer les deux bouts du mois.
Il ne peut pas nouer les deux bouts du mois.
Oui.
S'il ne rentre pas dans les antivaleurs. Vous voyez? Nous sommes en train de créer des cercles vicieux qui contrecarrent notre progrès au plan global. Ça, c'est intragénérationnel.
Mais donc, s'il faut parler de développement, il faut d'abord assurer à chaque citoyen congolais le minimum vital qu'il
soit à mesure. Tout à fait. Mais on dit que le développement durable couvre l'objectif économique, social et écologique. Les entreprises gagnent, mais il faut qu'ils offrent de bonnes conditions de travail à leurs collaborateurs. Et nous arrivons à l'équité intergénérationnelle. On ne peut garantir ça que si la dimension écologique du développement durable est respectée. Ça veut dire que ceux qui produisent des richesses ne les produisent pas sur le dos des ressources naturelles. C'est-à-dire, ils ne les produisent pas en recourant aux approches prédatrices. J'ai donné un exemple. Toutes les rivières de Kinshasa
sont presque asséchées.
Même celles qui ne sont pas asséchées. Personne ne peut dire qu'il peut boire l'eau qui vient d'une rivière de Kinshasa.
Ah non, ça non.
Et je veux vous ajouter une dimension que les gens ne connaissent pas.
Laquelle?
Parce que quand on dépose les factures de la régie des eaux, des fois j'entends dans les quartiers où je vis, tout repris, mati, les alakaboyetés, tout ça.
Il y en a ma facture, ma écoute,
bimakate. Mais ces factures sont salées, pourquoi? Il faut aller dans les usines de la régie des eaux. Voir les systèmes de traitement de l'eau. Mais c'est de la boue qu'il faut enlever de l'eau. Et ça demande de grandes quantités d'intrants. Moi, quand je faisais mes recherches doctorales, je suis allé travailler là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il faut 4 fois les quantités d'intrants pour que la régie des eaux atteigne la qualité de l'eau selon les exigences de l'OMS. 4 fois les quantités par rapport à son homologue de France.
Wow.
Vous comprenez?
Et ça demande beaucoup de moyens.
Ça demande beaucoup de moyens. Et puis, je ne vais pas entrer dans les considérations techniques. Je m'arrête au niveau de la maltraitance des ressources naturelles avec laquelle nous avons fait corps. En fait, nous sommes tous des prédateurs. À la tête de cette chaîne, il y a les entreprises. Et aucun souci de régénération des écosystèmes naturels. Alors, quand vous êtes dans cette logique, vous ne pouvez pas garantir le fait que les générations futures trouveront un stock de ressources naturelles suffisant pour qu'ils puissent satisfaire à leurs besoins. Kinshasa, vous sortez de Kinshasa, vous allez dans le plateau de Bateke, vous allez faire un constat. Il n'y a plus d'arbres.
Dans le plateau de Bateke.
Non, tout est coupé pour venir faire les Gamounds de la Kinshasa. Et personne n'est interpellé, personne n'en fait un problème. Quand nous circulons partout là, il y a des bottes de bois, ils font les Gamounds, nous mangeons. Oui. Mais nous prenons la part des générations futures.
Donc nous mettons les générations futures en danger.
En danger. Donc, nous sommes vraiment, je ne peux même pas dire qu'au début de la mise en place, nous ne sommes pas encore dans la vision du développement durable. Parce que ces trois dimensions de l'équité ne sont pas dans nos préoccupations.
D'accord. On va accueillir les auditeurs. Justin Koulou de Fungurume, Ismaël Mumpoy et Talumbashi et Maître Gaston à Kinshasa. Justin Koulou, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à notre invité qui a bien expliqué sur la thématique du jour.
Bien, quelle est la question ou quelles sont les questions que vous adressez au professeur Daniel Moulinda? Allô, Justin?
Oui, je crois, ces idées qu'il a, que cela soit concret dans notre pays et nous atteignons le développement. Qu'est-ce qui lui manque? Deuxièmement, M. Jody, nous avons des profonds regrets par nos dirigeants, je ne sais pas qui condamner. Je me réserve les paroles d'indexer les doigts à quelqu'un. Il y a des transformations plutôt en producteur. Il y a des sommes colossales affectées à des choses inutiles. À titre d'exemple, je prends l'aéroport, l'aérodrome, l'aérogare. On nous arrange ça pour aller où et rester chez qui, là où nous allons partir.
D'accord.
Et si
alors,
vous remarquez, ce sont des sommes trop...
D'accord. Quelles sont les questions que vous adressez directement au professeur? Parce qu'il est en train de noter, alors allez droit au but.
Oui, oui. J'ai dit à notre professeur qu'il nous trace le canevas qu'on doit déposer au gouvernement. Nous allons faire des bruits avec vous, monsieur Jody, et moi, monsieur Justin de Fungurume, pour que cela s'applique, puisque la nation, c'est pour nous tous. Même ceux qui sont à Kinshasa, même ceux qui sont à Fungurume, même ceux qui sont à Kayeye, au Kasai, ce sont les Congolais. Qu'ils nous tracent les schémas, les concepts-là qu'ils viennent de développer, nous allons commencer à faire le bruit pour matérialiser son idée. Ce sont les génies à garder même en Europe, on devrait même le placer quelque part et on se rend à tout moment pour demander des idées. Mais apparemment, je ne sais pas s'il est dans les fonctions ou pas, et il est oublié. Pour chiter, monsieur Jody,
oui,
que nos décideurs se concentrent convenablement en nécessaire, puisque apparemment je n'ai pas le temps de bien vous suivre, vous m'avez pas laissé le temps, j'avais beaucoup d'histoires à faire pour contribuer au notre développement de notre pays. Mais fort malheureusement, le temps nous fait défaut, nous tous nous allons déménager pour être à Kinshasa et prendre même de... Nos fiancés.
Ah bon, vous voulez venir aussi à Kinshasa?
Oui, oui, pour être à Kinshasa, puisque là, il y a une très bonne vie. Ici, nous souffrons, nous allons fuir. L'invité l'a dit déjà.
Merci, Justin. Ismaël Mupoy de Lumbashi, bonjour. Quelle est votre question?
Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, M. Moulinda. Je pose la première question de savoir quels sont les indices du développement durable. Mais en RDC, ce développement durable a débuté ou a commencé quand? Ou on peut attendre à quel moment dont on peut avoir un développement durable? Je vous dis quelque chose. Justin, vous pouvez dire, nous sommes assis sur le minerai. Mais en définitive, ce qui fait le minerai ou ce minerai tire profit à ceux qui viennent exploiter dans notre pays. En fait, nous, le peuple congolais, mais on voit qu'on exploite. Le Congo est un pays riche, mais le développement, nous ne voyons pas. Mais pourquoi j'ai dit ça? Elles-mêmes, les sociétés, donnent de redevances minières et une dotation. Mais à des fois, nous nous demandons ce qui fait cet argent. Si je ne veux plus
Ismaël, Ismaël, il y a la dotation de 0,3% qui est disponible pour des projets à impact communautaire. Mais est-ce que les communautés s'organisent pour amener les projets afin de bénéficier de ces financements?
Très bien, Jody.
vous avez soulevé une très bonne question. Le commentaire que j'ai fait sur la... Je suis un premier vice-président du comité de suivi pour les activités du CEDEM. Je vous dis, cette société, d'autres, c'est-à-dire que vous dites là. C'est pourquoi je me suis dit, si nous voulons développer notre pays et durablement, vous vous trouvez dans une situation où la société qui exploite n'est d'autre ni école, ni centre de santé, ni un hôpital, ni même une infrastructure routière. Vous comprenez que même si on donne cet argent, c'est nous-mêmes, le peuple congolais, qui prenons cet argent que nous utilisons pour nos propres objectifs. Ce que j'ai écrit sur la page, vous vous imaginez que vous ne trouverez même pas. La société a le courant, mais le propriétaire de là où il exploite, il n'a pas le courant. Il n'y a pas un centre de santé. Il n'y a pas une école telle que l'exemple dont je l'ai dit d'un village Kashimbala, au périphérie de la ville de Lubumbashi. Vous voulez poursuivre, dire non, nous n'avons pas encore donné les moyens. Nous avons besoin du courant. Imaginez l'environnement que nous avons pour les calmer, pour ne pas être, pour qu'il ne soit pas détruit. Il faut qu'on ait le courant. Sinon, les coupes de bois aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas le courant.
D'accord.
Nous n'avons pas d'eau.
Merci
beaucoup.
Cela
demande à ce que le peuple congolais ait le courant et d'eau. Mais en définitive, le peuple congolais ne se donne pas les risques. Les jours à venir, ceux qui exploitent et le minerai et certaines choses vont partir et les minerais peuvent finir. Mais qu'est-ce que le peuple congolais va gagner et quel sera notre développement?
Voilà.
Je pense à mon niveau, c'est ça ce que j'avais voulu dire.
Merci Ismaël. Nous parlons du développement durable. Quels sont les préalables à réunir pour atteindre le développement durable en RDC à l'horizon 2030? Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Maître Gaston, bonjour. Quelle est votre question? Il n'est plus là. Kaite Kalunga de Lubumbashi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité du jour.
Quelle est votre préoccupation, Kaite?
Bon, ma préoccupation se base sur les points de... le développement durable que l'invité a souligné. D'abord, je tiens à féliciter l'exposé des motifs de l'invité du jour, quand il a analysé la situation du développement durable. Mmh. Maintenant, je voulais un peu souligner quelques points dans son analyse. Il dit que le développement durable doit se trouver partout. Maintenant, aujourd'hui, vous allez voir dans d'autres provinces, il y a des difficultés, dans d'autres quand même, ça va. Par exemple, ici à Lubumbashi, c'est passable, mais si nous essayons un peu d'analyser dans d'autres provinces, vraiment, c'est la boue. Alors, ce que moi je voulais demander d'abord à l'invité. Quand on parle d'abord du développement durable, premièrement, d'abord, on voit des routes, on voit la SNL, l'électricité, et on voit d'autres. Maintenant, ici au Congo, premièrement, d'abord, il y a un problème de l'insécurité. Et ce qui peut apporter le développement durable le plus, ce sont les investisseurs. Maintenant, ici, il n'y a pas la paix. La paix n'est pas au rendez-vous. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Même le développement ne sera pas au rendez-vous parce qu'il y a des problèmes. Ce qui est nécessaire d'abord, c'est de résoudre d'abord toutes les difficultés qui gangrènent la RDC afin que les autorités étatiques puissent prendre des mesures maintenant de développer notre État. Nous avons beaucoup de problèmes sur des routes, nous avons beaucoup de problèmes sur l'insécurité, ça pose toujours des problèmes. Et ça pousse toujours que notre pays ne puisse pas exceller sur l'échec international ainsi que national. Mmh. C'est là ce qui pose un peu, donc c'est déjà un blocage. Vraiment, le développement c'est la paix, le développement c'est la sécurité, le développement ce sont des routes. Lorsque les routes sont dégradées par-ci, par-là, mais là, comment le développement viendra où? Là, c'est un problème sérieux que les autorités doivent prendre au sérieux afin que notre État puisse exceller. Nous avons des problèmes ici en République démocratique.
D'accord, merci beaucoup. Mais merci là, merci nous, beaucoup, Kaïté. On a bien compris vos préoccupations. L'invité va répondre tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. Professeur Daniel, à vous la parole.
Merci. Pour l'intérêt que les auditeurs éprouvent à ces sujets, que je considère comme étant une question essentielle pour l'avenir de notre pays. Nous commençons par M. Justin de Fungurume, Merci pour votre intervention. Vous avez commencé par dire qui condamner. Vous avez dit aussi que des sommes colossales sont affectées à des choses inutiles. Je réponds d'abord à ces deux préoccupations. Mmh. Ben moi, je n'ai jamais fait la science avec un esprit de
condamner les uns ou les autres,
ou d'attribuer la faute aux uns pour blanchir les autres. Parce qu'en fait, même les dirigeants là, les dirigeants, c'est nous. Qui sont les dirigeants? Ce sont nos frères. Mmh. Ce sont nos sœurs. J'ai toujours dit aux étudiants, ben écoutez, cessez de jeter la pierre sur les dirigeants. Sachez que, comme ils sont sortis du milieu de nous, nous sommes comme eux. Parce que depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de gouvernements qui ont été remaniés? On a changé combien de personnes? Mais le système est resté le même.
Resté le même.
Oui. Donc maintenant, je vais dire, on ne condamne personne, mais on se condamne nous tous.
Voilà.
Nous avons un problème culturel. C'est-à-dire, nous avons un problème culturel qui devient comme une pesanteur qui nous bloque. L'amour de l'argent facile. Il faut que chacun se mette devant le miroir pour se regarder et dire que moi, professeur Daniel Moulinda, je prends l'engagement de sortir du système de l'argent facile.
C'est à tous les niveaux. Donc on doit travailler sur nous-mêmes.
On doit travailler sur nous-mêmes. Il faut que chacun sorte d'abord, avant de regarder vers l'autre. Est-ce que toi, tu as enlevé cet amour de l'argent facile de ton cœur?
Avant de condamner l'autre.
Avant de condamner l'autre. Mmh. Parce qu'un jour, je disais aux étudiants, dans une salle à la faculté des sciences et des technologies, je leur disais, mais vous avez en vous les géants de la corruption qui attend seulement son jour pour se manifester. Ils m'ont dit, non, professeur, non,
dit, on fera pas ça.
On fera pas ça. J'ai dit, je prends un exemple simple.
Oui.
Au milieu de vous. Mais à l'époque où nous, on vendait les syllabus, nous, les professeurs. Maintenant, c'est interdit. Mm. Mais les chefs de promo, ils volaient notre argent. J'ai dit, mais toi qui voles l'argent du
l'argent des syllabus du professeur.
Mais le jour où tu es ministre des Finances.
Mais tu vas continuer.
Tu vas prendre toute la caisse de l'État. Voilà, c'est pour dire qu'on ne peut condamner personne, mais on doit se condamner nous tous.
Mmh. Quelqu'un a posé la question, j'ai mis la question, il dit, quels sont les indices du développement durable, professeur?
Oui, mais les indices du développement durable sont simples. Vous voyez, là, vous m'engagez dans un terrain assez technique. Mmh. Le développement a toujours été mesuré par un indice. La croissance des richesses
ou des indicateurs.
Oui, nous arrivons. Mm. L'indicateur principal que les économistes ont utilisé depuis longtemps, c'est l'accroissement des richesses représenté par le produit intérieur brut.
Et souvent, le PIB.
Le PIB. On comparait le PIB par habitant et on compare le pays, on compare les régions et on disait que là où le PIB par habitant est élevé, ça veut dire que la vie va mieux là-bas. Mais aujourd'hui, cet indicateur a été mis à défi. Et moi, je vous dis que ce n'est plus un bon indicateur.
Alors, on l'a remplacé par lequel?
Oui, parce que aujourd'hui, il y a un intervenant qui a dit, mais les minerais là, les dividendes vont chez les étrangers. Mais est-ce que vous savez que toute la valeur marchande de ces minerais sont enregistrés dans notre comptabilité nationale? Comme étant la production réalisée en République démocratique du Congo. Mais qui c'est là où cette production a été consommée? C'est consommé loin de nos frontières. C'est pourquoi il n'y a pas de changement ici. Parce qu'à l'époque de Mobutu, on n'a jamais atteint 500 000 tonnes de cuivre vendues. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 2 millions par an. Donc nous devrions sentir l'effet de ces booms miniers sur notre quotidien. Mais nous continuons à importer les riz et nous continuons à importer des cure-dents. Ça va où? Le médecin, l'enseignant que je suis, nous continuons à vivre difficilement. Mais on est en train de pomper les sous-sols. Et l'intervenant a dit, quand ça va se terminer, qu'est-ce que nous allons devenir?
Et les générations futures
deviendront. Que... Mais oui. C'est ça, c'est là où intervient notre recherche, nous. Pour dire aux gens, nous devons changer notre manière de vivre ensemble. Cette manière-là, notre façon d'aller vers le développement, ne nous permettra jamais d'y arriver. Alors, l'autre indicateur que les gens considèrent aujourd'hui, c'est l'indice du développement humain. C'est-à-dire, on doit aller au-delà du chiffre qui est comme utopique. Le PIB qui ne vous dit pas là où les richesses ont été consommées, qui ne vous renseigne même pas sur la manière que ces richesses ont été produites.
Et quand vous parlez de l'indice du développement humain, on fait allusion à quoi?
Non, on prend aussi le PIB.
Le PIB.
Mais on y ajoute d'autres indicateurs.
D'accord.
Par exemple, l'espérance de vie. Parce que vous savez que l'espérance de vie lui-même, c'est un indice composite. Ou entre beaucoup de facteurs.
Oui.
On prend par exemple l'accès à l'éducation, à la santé. C'est-à-dire il y a un barème d'indicateurs qu'on compose et on tire la synthèse, on appelle ça indice du développement humain. Et quand on regarde ça, nous sommes à la queue. Nous sommes à la queue malgré le potentiel des ressources naturelles. Parce que les gens disent que nous sommes un pays riche. Non, il faut parler en français. Je sais que c'est pas notre langue. Nous sommes un pays potentiellement riche. C'est-à-dire, les jours où nous allons définir ensemble un mode de transformation de ces richesses naturelles, nous deviendrons alors un pays riche. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un riche.
Quand on nous qualifie de pays en voie de développement, qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, moi, je peux même pas dire en voie de développement. Je peux dire en voie de sous-développement.
Professeur, comment vous nous ramenez?
Parce que un pays en voie de développement,
oui.
C'est un pays qui a trouvé un modèle, mais il est en train d'avancer vers le développement. On dit en voie, c'est-à-dire sur le chemin du développement. Mais nous, si vous regardez depuis 1960, notre marche se fait en reculant. Nous avons perdu tout ce que nous avions accumulé pendant la colonisation. Nous avons tout perdu. Les systèmes éducatifs anéantis. Il y a quelqu'un qui a parlé des réseaux de communication. Les pays n'est plus connecté.
Les routes.
Même les voies de navigation fluviale. Tout est complètement perturbé. À telle enseigne que, aujourd'hui, je vais vous dire, mon frère, l'Ouest fait les commerces avec les pays voisins de l'Ouest.
L'Est c'est pareil.
Fait les commerces avec les pays voisins de l'Est. Le Sud, la même chose. Et les parties du Congo ne font plus du commerce entre elles. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un système qui consolide une économie endogène. Vous voyez ? Donc, nous sommes en train de reculer. Nous ne sommes pas en voie de développement, mais nous sommes en voie de sous-développement. Parce que chaque jour, nous créons des embûches et nous n'avançons pas. Venir à Kinshasa, je l'ai dit. Ben, venez à Kinshasa, vous serez désillusionnés. Vous allez gonfler les rangs des chômeurs. Or, être chômeur à Kinshasa, c'est difficile, hein. Parce que pour atteindre les coins où vous pouvez faire même 100 sur 100, c'est-à-dire un hectare de champs, ça devient difficile. Mais quand vous êtes dans l'arrière-pays, vous avez accès aux terres arables. Vous pouvez vous débrouiller. Il y a monsieur Ismaël de Lubumbashi qui a parlé de l'indice du développement durable, on a commenté là. Il dit, le développement a commencé où les minéraux, les dividendes vont à l'étranger, on a déjà parlé. Maintenant, je vais parler de la dotation de 0,3% pour les projets à impact communautaire. Ça, c'est dans le code minier. Mais le problème, c'est que les Congolais, je l'ai dit, nous devons combattre cet attachement à l'argent qu'on n'a pas mérité par le travail.
Ah, ça c'est un problème.
Tout à fait. Ça tombe entre les mains de qui? Parce que les miniers donnent.
La relation des Congolais avec l'argent.
Avec l'argent, elle est vraiment un problème depuis longtemps. Donc, nous devons faire en sorte que le développement durable s'installe. Sinon, comme l'a dit Monsieur Gaston, Monsieur Kaïté, quand vous arrivez à Lubumbashi, c'est passable. Mais quand vous êtes à l'intérieur de la province, ça pose un problème. D'abord, pour arriver dans ton village
c'est
natal,
déjà un problème.
C'est déjà un problème. Les on n'a pas d'infrastructure. Il y a l'insécurité. Je reviens sur l'insécurité. Qu'est-ce qu'on appelle l'insécurité dans ces pays? En fait, l'insécurité de ce pays, c'est le fait de l'affaiblissement de l'appareil de l'État. L'appareil de l'État est affaibli. J'ai toujours enseigné que la main de l'État au Congo est affaiblie par ceux qui convoitent le Congo, qui ont leurs représentants ici, qui exploitent nos ressources.
Pour piller les ressources.
Vous savez, j'ai toujours regretté. Non, les Congolais sont des corrompus, des corrompus, des corrompus. Très bien. Nous sommes des corrompus. Mais désignez-nous qui sont les corrupteurs.
Ah ouais?
Qui sont les corrupteurs? Ce sont des gens qui ont reçu mission d'affaiblir la main de l'État.
Pour des intérêts égoïstes? Oui,
pour accéder à nos richesses.
À nos richesses, bien.
Ils les exploitaient de façon à ce que nous, on n'en tire pas profit. Parce que dans un État, si on veut vous cannibaliser, on fait quoi? On cannibalise l'État. Parce que c'est le seul agent qui est chargé d'assurer la mise en œuvre des stratégies qui portent bonheur à toutes les couches de la population vivant dans un territoire.
Alors, professeur Daniel Moulinda, on parle de plus en plus du projet des corridors verts. Est-ce que ce corridor peut instiguer ou favoriser le développement de plusieurs provinces?
Moi, quand je parle du développement durable, je vais vous dire que les corridors verts, c'est une bonne idée. Je parle de l'idée. C'est pas un projet. Là, je parle comme scientifique.
C'est encore une idée.
C'est une idée. Dans ce pays, nous sommes des spécialistes. C'est parce que parmi les intervenants, quelqu'un a demandé, mais nous commençons par où?
Ça veut dire qu'il faut une planification.
Voilà! C'est-à-dire que la planification d'un développement dans un pays ne se fait pas par des projets lancés au hasard à gauche et à droite. Ça commence par la définition et la conception d'un modèle. Tous les efforts de développement qui comprennent beaucoup de transactions chaque jour et beaucoup d'investissements dans tous les côtés partout, mais il faut qu'on trace une ligne conductrice qui va canaliser les efforts de tous les acteurs vers un objectif ultime mesurable.
Professeur, est-ce qu'en Afrique, il y a un pays qui s'est développé, qui a expérimenté le développement durable et qui peut nous servir de modèle?
Il faut aller au Ghana. Vous allez voir comment ce pays a été transformé. Et je vais vous définir le développement autrement, comme j'ai fait le développement durable. Il y a des définitions qu'on nous donne dans les livres que nous enseignons. Mais ça ne vous permet pas d'implémenter dans un contexte particulier qui est le Congo. Je vous dis que le développement, c'est un effort engagé collectivement par un peuple pour sortir de la précarité comme nous. Il faut que collectivement, nous puissions nous mettre d'accord sur un modèle de travail qui va nous permettre de sortir de là où nous sommes.
Mais on a dit que l'insécurité, tout ça,
malheureusement,
nous empêche de...
C'est pas seulement l'insécurité. C'est pas seulement l'insécurité. C'est ça la difficulté que nous avons dans ce pays. Chaque fois que les Congolais doivent se réunir, la question économique, elle est secondaire. Nous sommes vraiment comme en 1961, où les questions politiques avaient suprématie sur tout.
Oui.
Je suis même étonné que vous m'ayez appelé pour qu'on parle du développement durable. Je croyais que vous allez m'appeler pour que nous parlions de la guerre à l'Est. N'est-ce pas? Et des tractations de Fayoulou avec le président Tshisekedi. C'est ça qui occupe les Congolais.
Ça, dit que ça viendra.
Non, non, j'ai dit ceci.
Oui.
Je suis très émerveillé.
Oui,
et très content.
On a compris, oui.
Dans ces lots-là qu'on parle aussi de la question économique.
Économique, de développement.
C'est une question. Notre attitude est vraiment... Nous avons tourné les dos vers les questions économiques.
Professeur, une question. Quels sont les paramètres à considérer pour engranger, ne fût-ce que démarrer les développements de notre pays?
Merci.
Quels sont ces paramètres?
Merci. Il faut qu'on fasse d'abord le l'autocritique.
D'accord.
Où sommes-nous? C'est ça la première chose.
Est-ce qu'on est au point zéro ou bien on a fait quand même quelques progrès?
Je vous ai dit que les progrès épars ou éparpillés, ça ne vous conduit pas au développement durable. Le développement durable devrait être le fruit d'un modèle réfléchi et sur lequel tout le monde se met d'accord. Et on dit le peuple va avancer sur cette direction. Je vais vous donner l'exemple de la Chine. La magie de la Chine, c'est quoi? C'est qu'à un moment, ils ont observé les Occidentaux. Et ils avaient, eux, un système autoritaire sur le plan politique et économique. La Chine, pendant le communisme. Ils ont regardé, ils ont dit non. On va garder le système autoritaire sur le plan politique, mais nous allons libéraliser l'économie.
L'économie.
Ils ont dit, mais comme ce qui libéralise l'économie libéralise même les finances, nous allons marquer une différence. Nous, l'État va garder les finances.
Okay. Et
ils ont trouvé un modèle cohérent qui fonctionne, qui a fait de la Chine aujourd'hui la première nation sur le plan économique. Ils ont dit, l'État va garder un contrôle autoritaire parce que, en fait, hein, vous savez, la démocratie, c'est un système, on n'est pas venu parler de ça. Ils ont dit,
on garde les contrôles.
On garde les contrôles.
Oui.
On libéralise toute l'économie, mais nous gardons les finances. On appelle ça le capitalisme, le capitalisme financier étatique. Vous avez compris?
Oui.
Mais vous êtes un grand journaliste dans ce pays. Dites-moi, quel est le modèle qui conduit l'économie congolaise?
Ah, mais moi, je sais pas, je pense que mais vous, les économistes,
posez-moi la question.
Voilà, professeur, quel est le modèle?
Je veux vous répondre.
Qu'on utilise ici au pays.
Ici, nous sommes dans un modèle anti-système.
Anti-système?
Oui. C'est-à-dire un modèle non programmable. C'est pourquoi vous voyez.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle?
Non. Nous avons un modèle anti-système. Je vais vous les décrire.
D'accord.
Et je vais vous donner les noms de ces modèles-là.
Ça devient intéressant.
Vous allez comprendre. Nous sommes... Attendez, je vais écrire pour ne pas oublier.
Un instant, professeur.
Oui.
On va accueillir les auditeurs et puis je reviens à vous pour ce modèle. On veut en tout cas en savoir plus sur ce modèle.
Okay.
Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani et Christian Politassi à Kinshasa. Blaise Saïdi, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, mon cher, je dis bon retour à l'Okapi Service.
Merci, Blaise.
Ok, cher Jody. Oui, merci. Je vais aller tout juste hein, à poser la question à l'invité. Mais néanmoins, je dois donner quand même quelques idées. Donc, le développement de la RDC ne peut atteint que par une approche politique, que je dis. Avec la volonté politique, mobilisation de la société civile, bonnes pratiques économiques et de l'environnement. Il s'agit d'un processus long terme, cher Jody. Il nécessite un engagement constant à ce niveau de la société. Je veux quelques questions à l'invité. La première question. Quelle stratégie la RDC pourrait-elle adopter pour une gestion durable de ces forêts et mines? C'est la première question. La seconde question. La RDC peut-elle atteindre un développement durable tout en continuant à dépendre de l'exploitation minière? Et la troisième question que l'invité commençait déjà à frôler la réponse avant que la question soit là, c'est quel modèle alternatif de développement pourrait mieux convenir au contexte congolais?
Bien, merci.
Ça, les trois questions, chef, je dis. Merci.
Merci Blaise. Christian Politassi de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci de la parole accordée. Je pense que les objectifs de développement durable exigent un certain nombre de prérequis. Il y a notamment la stabilité politique et institutionnelle, la sécurité juridique et judiciaire, la stabilité du taux d'échange, la maîtrise de la dette publique. Et voilà. Donc ces quelques conditions sont en réalité le piste de décollage, en tout cas pour notre compréhension, pour un développement durable. Et donc il faudrait vraiment prendre en compte un certain nombre de besoins et que cela soit de manière beaucoup plus structurelle pour que le développement durable soit vraiment au rendez-vous. Et de cette manière, il faudrait également prendre l'ensemble de besoins ou encore ses besoins dans sa globalité, c'est-à-dire en ciblant tous les domaines au lieu de se focaliser par rapport à deux ou trois domaines. Et de cette manière, vous verrez que le développement durable ne sera pas au rendez-vous. Mais une chose est sûre, au-delà de tout, ce que nous devons marteler, c'est le fait que ces objectifs du développement durable ne peuvent être atteints que si l'homme qui est ici, en tout cas, un acteur majeur pour son implémentation, travaille de manière consciencieuse. Et ici, nous voyons beaucoup plus une conscience nationale. L'on ne peut pas atteindre les développements durables si l'homme, au centre de tout, s'adonne au détournement, s'adonne lui-même à des pollutions, s'adonne lui-même à des actes qui ne permettent pas que l'ensemble même du pays arrive à se développer, allais-je dire.
D'accord.
Et donc, il faudrait un engagement beaucoup plus citoyen dans le chef de chaque personne qui a une parcelle de responsabilité. Et de cette manière, nous pouvons, tant soit peu, atteindre les développements durables sans pour autant oublier la population qui doit également accompagner ces genres d'actions, de ces genres de modèles pour un Congo meilleur.
Merci
voilà
Christian.
Ce que je peux dire.
Merci Christian Politassi de Kinshasa. Professeur Daniel Moulenda, vous avez la parole.
Merci. Ben, je suis content que les questions des intervenants vont nous ramener à parler du modèle. Voilà. Quelle stratégie pour la gestion des forêts? En fait, demain, il y a le forum sur le bassin du Congo qui va s'ouvrir. Je prendrai la parole, je communiquerai. Moi, ma stratégie sur la gestion des forêts congolaises, elle est simple. Aujourd'hui, les populations du bassin du Congo sont des sentinelles mal payées. Je peux dire même les sentinelles impayées pour garder un bien public mondial dont les effets sont consommés à travers toute l'humanité. Parce que nous sommes devenus les poumons, le principal poumon écologique du monde.
Pays solution.
Une solution, c'est que la communauté internationale doit s'organiser pour former les peuples du bassin du Congo au développement durable, à la question de la gestion de l'environnement. Parce que c'est nous qui gardons ce bien qui appartient à l'humanité tout entière et dont la vie de l'humanité dépend. D'abord, la formation. Des deux, il faut que les projets de développement soient concrets. On nous dit, ne coupez pas les bois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, on ne coupe pas les bois, même à Kinshasa, on mange comment? On peut pas avec quoi?
Il faut des alternatives.
Mais il faut des alternatives. Je leur ai dit, mais que Inga s'achève. Pourquoi Inga ne se termine pas?
On a appris qu'il y a des financements.
Non, laissez. Moi, je ne parle pas de saupoudrage financier.
Financier, bon.
Qui servent aux appétits politiques de ces grandes nations. Donc, quand le peuple apprend qu'on a donné de l'argent, moi, j'ai fait mes enquêtes.
Pour Inga.
Je préfère ne pas en parler ici.
D'accord.
Parce que je ne suis pas la bouche autorisée. Il faut que la communauté internationale mette la main à la poche.
Professeur, il nous reste 3 minutes. Alors, oui. Rapidement, parlons du modèle, de notre modèle de développement. Vous avez dit...
Notre modèle est... C'est une économie de quête. Prédatrice. Informelle. Et extraverti.
Alors, quel est le modèle qu'on doit adopter aujourd'hui pour développer, pour parler du développement durable en RDC?
Nous devons adopter 2 types de modèles. Par rapport aux ressources, à l'exploitation des ressources naturelles, nous devons pratiquer un modèle que j'appelle IERN, intensification de l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Personne ne peut nous empêcher de couper nos bois. Mais nous devons couper nos forêts dans l'ordre d'assurer leur régénération.
D'accord. Deuxième modèle.
Deuxième modèle. Comme les Chinois, nous devons appliquer un capitalisme inclusif vert.
Ok.
Nous aurons peut-être le temps, si vous m'invitez.
Professeur, vous allez revenir.
On va décortiquer ces deux modèles.
Voilà, ces deux modèles, voilà.
Et vous allez comprendre que cette vision, cette pensée peut canaliser l'action de tout le monde et nous arriverons quelque part.
Professeur, quand est-ce que vous allez revenir?
C'est les jours où vous allez m'appeler, même cet après-midi. J'ai soif.
D'accord, merci voilà. Professeur Daniel Moulenda, docteur en sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Hein.
Merci beaucoup, mon frère.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Polydor Bansunga a été à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation. Jeudi, Daniel au micro. Restez branchés sur la fréquence et la paix et à la prochaine.